un échange en tête-à-tête, interview exclusive de Nadia Samut. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Vous êtes chef du premier restaurant étoilé sans gluten et j'imagine sans lactose aussi, puisque j'ai vu que vous étiez intolérante au lactose dans le petit livret en salle de Transgourmet. Et vous êtes la fondatrice de Comme et Sale, marque de produits de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie à base de farine locale et sans gluten. Et vous avez aussi, je l'ai appris il y a peu, donc construit un moulin pour aller vraiment tout au bout de cette démarche et donc de transformer cette farine. Alors, on a un peu le temps devant nous, donc on va essayer de retracer un petit peu le début de tout ça. Je dirais, la première pierre, c'est le restaurant, c'est la suite de ce qu'avait créé votre maman, mais aussi avec cette démarche de préserver la santé et en l'occurrence la vôtre pour commencer. C'est ça.
Alors,
la première chose.
Disons que effectivement, moi, ma famille a commencé dans la gastronomie française il y a 50 ans ou un peu plus. Ça a commencé par ma grand-mère, puis ma mère et moi. Donc déjà aussi, on est une transmission essentiellement féminine dans le milieu de la cuisine dans ma famille. Et elles ont toujours cuisiné avec cette cuisine d'empreinte méditerranéenne, donc une cuisine, je dirais, naturellement bonne peu de gras, de choses comme ça, mais toujours très gourmande. Et moi, quand je suis née, effectivement, j'étais malade cœliaque, donc intolérante au gluten. Et il y a eu cette question qui s'est posée. Bon, j'ai 43 ans, donc à l'époque, on connaissait très peu la pathologie et ce qu'il fallait faire. Mais pour moi, ça a été un point de départ dans la cuisine, puisque ce n'était pas ma prédisposition professionnelle. J'ai fait des études de chimie et de nez dans les parfums. Mais je me suis rendu compte que l'essentiel pour moi était de réfléchir à cette transmission, de prendre mon héritage culturel, culinaire, et de faire quelque chose pour le bien commun, qui est l'alimentation.
Alors tout cela ne s'est pas fait en un jour. Vous avez démarré la cuisine, avant toute chose, avec déjà cette réflexion qui était différente de celle que votre maman avait, parce qu'en fait, votre maman ne se posait pas de questions quand elle cuisinait, alors que vous, vous vous êtes dit, il faut que je préserve ma santé et puis aussi celle des autres. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se met un jour devant la casserole, si on veut imaginer le propos, en se disant, je dois substituer un des aliments, enfin, un des ingrédients pour le remplacer, pour que la recette fonctionne, soit digeste pour moi?
Alors, effectivement, là, le premier point, c'est de se dire on ne peut pas manger telle ou telle chose, donc on ne va pas en parler toute notre vie, on va manger d'autres choses. Ça, c'était la première. L'exclusion, pour moi, n'était pas possible. J'avais envie de continuer dans cette vie de la cuisine, du partage et du côté épicurien, parce que pour le coup, c'est mon éducation. Et au lieu, justement, de penser dans cet angle, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Quels ingrédients je vais utiliser? Comment je vais aller utiliser la culture locale, agricole, pour la mettre dans cette assiette et la rendre belle, tout simplement. Et je vais dire quelque part, la rendre subtile et suivre ces belles transmissions que j'ai eues de l'essentiel que ma mère cuisinait, avec toujours beaucoup d'harmonie. Voilà.
C'est votre maman qui vous a transmis le goût de cette cuisine et puis aussi la technique culinaire?
Alors, elle m'a plutôt transmis l'amour que l'on donne aux autres quand on cuisine ou quand on fait quelque chose. Elle m'a pas transmis ses techniques parce qu'elles sont absolument pas adaptées à ma cuisine. Mais par contre, elle m'a transmis cette chose de dire si tu as envie de le faire, fais-le. Aujourd'hui, tu as des capacités. Maintenant, prends la cuisine comme un labo et va chercher quoi. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait.
Voilà, donc vous êtes une véritable autodidacte et vous avez réussi à créer, je dirais, pour avoir eu la chance de la goûter, une cuisine authentique, singulière, où on est touché en mangeant chez vous. Il se passe vraiment quelque chose. On n'a pas la même expérience qu'ailleurs. Et moi, je crois que je ne l'ai encore jamais ressenti depuis le repas que j'ai eu la chance de faire chez vous. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Enfin, vous êtes rendu compte du travail que vous avez réussi à faire, ou c'est vraiment ce que vous avez en vous que vous réussissez à transmettre d'une manière admirable?
Déjà, merci mille fois, parce que ça me touche. Mais je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est un ingrédient majeur de mon travail, c'est-à-dire que j'ai pas voulu m'asseoir sur cette hypersensibilité et j'ai essayé de la transcender parce que c'est la seule chose qui me semble être juste de moi-même et de transmettre aux autres. Donc, quand on est inspiré par les gens et qu'on a simplement envie de les nourrir en conscience et d'amener quelque chose de plus, la quintessence des ingrédients qu'on trouve, La perfection est dans la nature, donc moi je me laisse simplement habiter par ça et j'ai la chance d'être dans une propriété au milieu du Luberon où il y a de la nature environnante et je me livre à ça. Il n'y a pas de technique, mais la technique naît de la reproduction que je dois faire avec mes collaborateurs. Donc c'est comme ça que j'ai fait évoluer mes techniques, mais en fait il y a plutôt beaucoup d'instinct et d'intuition. Voilà.
Vous avez rapidement, je dirais, cultivé et aussi tissé un lien avec les acteurs locaux, agricoles notamment, pour avoir ces ingrédients essentiels.
Alors oui, déjà ma mère le faisait évidemment, mais moi je suis née là-bas. Et être née là-bas, ça veut dire que dans l'école déjà, on rencontrait des gens qui sont devenus agriculteurs après, alors que moi j'avais choisi d'autres études, donc en fait on a grandi ensemble. Et quand je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment nourrir, tout de suite je me suis dit comment je peux créer des coopérations avec eux, comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils l'ont fait, quel goût à leur terre finalement. Et je me suis mise à m'adresser vraiment aux gens les plus proches de moi. Les agriculteurs avec lesquels je travaille sont à 2 km. Donc, voilà.
Comment est-ce qu'ils vous ont reçu la première fois que vous êtes allé les voir? Parce que je pense qu'ils ont, dû vous prendre un peu pour une extraterrestre.
Je suis née dans un village où tout le monde me connaît bien, donc ouais, l'extraterrestre, ils l'ont déjà vu à la naissance.
Ouais, ça a simplifié les choses.
Non, mais en fait, en vrai, je leur ai proposé un vrai programme entre guillemets de partage en me disant que si on faisait évoluer des variétés, qu'on regardait leur évolution par rapport aux conditions climatiques, environnementales, aux semences qu'on pouvait amener sur notre territoire ou qui existaient déjà, puisque j'ai travaillé des semences anciennes qu'on a remises, ensemble, on allait justement créer ce goût d'un monde au goût meilleur. Donc pour moi, c'était un travail ensemble. C'est, je dis toujours d'ailleurs à tous mes collaborateurs que l'agriculteur ou même le pêcheur, parce que je ne travaille pas de viande, mais en tout cas, font partie intégrante de notre équipe. Donc on doit aller faire que ce maillon-là soit un des maillons les plus importants.
Oui, il y a le respect du producteur, le respect du produit, qui est intimement lié. Est-ce que le pain est venu en même temps que la cuisine, parce que le pain, c'est aussi la base de notre alimentation en France. Et ce pain-là, vous était interdit. Donc, il a aussi, en cette démarche, fallu créer un pain nouveau.
Alors, il est arrivé bien avant la cuisine, en fait, parce que le pain, c'est l'alimentation de toutes les civilisations. Parce que le pain, c'est pas forcément la baguette avec du blé. Dans beaucoup de pays, c'est autrement perçu. Et pour moi, en fait, j'avais pas de défaut. C'est juste que les gens pensaient que je mangeais pas de pain. Mais pour moi, une galette de lentilles, un travail sur le pois chiche, du riz, c'est un pain. Enfin, ça dépend de comment on a envie de le percevoir. Et comme je suis très, très positive, j'ai jamais, absolument jamais vu de négatif sur cette chose-là. En revanche, ma mère, effectivement, m'a fait rentrer en cuisine. Elle m'a dit, ton premier travail, vas-y, c'est le pain alors. Et là, je suis rentrée dans un monde que j'ai créé et que je me suis créé d'abord par l'histoire, l'histoire de ce qu'a été la graine, comment on l'a écrasée, pourquoi on faisait des galettes, etc., etc. Puis après, par la diversité dans le monde. Et enfin, j'ai créé ma propre formule de pain, en tout cas ce que j'avais envie d'être, le pain du partage dans mon monde.
Est-ce qu'un pain donc, qui soit sans gluten, ça veut dire à base de sarrasin?
Oui, de riz, de châtaigne, pois chiche, sorgho, quinoa, enfin ça dépend ce qu'on a autour de soi. Voilà. Oui.
Mais des ingrédients qui à la base n'ont pas de pouvoir panifiable. Donc il faut réussir à créer quelque chose.
C'est ça. Après on réfléchit, est-ce qu'on a envie de quelque chose qui est très poussé? Est-ce qu'on a envie de travailler avec un levain? Est-ce qu'on a envie d'avoir une galette? Est-ce que toutes les formes peuvent être prises? Et je pense que c'est cette grande liberté. Et malheureusement, on est un peu dans un monde un peu parfois enfermé. Et donc, on est dans le comparatif. Comme là, on va dire, c'est un pain sans gluten. Mais ça, on l'a oublié depuis longtemps. Moi, je dis que c'est un pain accessible à tous, avec une réflexion, justement, sur des farines à la base non panifiables ou en tout cas qui ne vont pas créer de maillage et de réseau comme on peut l'avoir traditionnellement dans la boulangerie traditionnelle.
Vous avez l'impression d'avoir réinventé le pain?
Non, je ne peux pas dire ça du tout, parce qu'on est nombreux.
Quand je dis ça, la conception, en fait, le regard qu'on porte.
Oui, moi, je pense en tout cas que j'offre une vision et un angle, un regard nouveau peut-être, ou en tout cas un regard d'ouverture que je partage avec beaucoup d'autres gens dans le monde. Et ça me va bien parce que je suis quelqu'un de très positif et inclusif et je trouve que les clivages coupent le rêve et l'imaginaire.
Ouais, c'est pour ça que je pose cette question-là, parce que je trouve que votre démarche elle est intéressante, parce qu'on a tous, je pense, parfois ce travers d'être un peu enfermé dans nos manières de voir les choses, avec cette volonté de comparer, de se dire « Ah oui, ça n'est pas, mais en fait, si c'est du pain, c'est simplement un pain différent de celui que la plupart des gens connaissent. »
Oui, quand on va au Brésil, on mange le pão de queijo qui est fait avec le tapioca, donc en fait, un pain qu'on va avoir, dont on va avoir l'expérience là-bas. Là, j'étais au Japon, je suis allée panifier sur d'autres farines pour montrer ce qu'on pouvait faire à partir de farines que j'écrasais là-bas. Ouais. Et c'est ça, en fait, moi, j'ai un monde très, très libre. Et d'ailleurs, ma panification, je l'ai appelée panification libre, justement pour pas qu'elle soit comparée. Je ne peux pas le comparer. Voilà, un levain de sarrasin n'est pas un levain de blé. Un maillage ou un réseau qu'on va créer avec un mucilage naturel de graines ne sera pas celui du gluten. Donc, c'est autre chose.
Alors, à quel moment naît Comessal ? Donc, cette structure là où on vient à l'ingrédient dont vous avez besoin, à savoir les farines, les différents ingrédients, alors légumineuses y compris. Hein, donc,
Alors, Comensal, en fait, je l'appelle Comensal. Comensal, c'est la commensalité et le partage. C'est né après justement ces années de réflexion et de mise en œuvre. Il est vrai que quand je vais au restaurant, il y a peu d'expérience gustative sur le pain chez mes confrères chefs de cuisine qui, quand j'arrive, en général, il n'y a pas de pain pour moi et je trouve ça dommage avec leur expérience qui est magique, souvent. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse ce pain et que je puisse le ramener à leur table et surtout que je réfléchisse d'abord à la farine, parce que faire du pain sans gluten, je pense qu'il y en a d'autres qui le font avec des farines pas forcément très bonnes et qui le distribuent. Et je me suis dit, il faut que je travaille d'abord sur le moulin et sur l'écrasement de mes farines, sur la mouture en fait, et la technique que je vais adosser à ces farines-là. Donc j'ai eu la chance, ils sont en face, mais de travailler avec Alma Pro. Voilà. Qui ont conçu le moulin Mélia. Voilà. Enfin, là, c'est le Tal Mélia, mais moi, j'ai un gros moulin chez moi. Et Emmanuel Garcia est là, et son frère, Sébastien. Et en fait, c'est grâce à eux que j'ai créé tout ce projet, parce que si j'avais pas eu des personnes comme ça qui m'accompagnent dès le départ en se disant, elle n'est pas complètement givrée, puis elle va faire quelque chose, et puis ensemble, on va réfléchir à justement ce qu'elle a comme idée sur le grain, sur tout peut devenir une farine, sur beaucoup de choses, en fait, je ne réalise pas du tout Comensal. Donc Comensal, c'est un vrai projet de coopération.
Mais vous avez vraiment eu ce sentiment qu'on vous prenait pour quelqu'un de givré ?
Ah oui, je pense qu'il y a 10 ans, je ne serais pas du tout européen, en fait. D'abord parce qu'il y avait une vision très clivante de ça et peu de gens avaient envie d'avoir l'ouverture sur une panification différente. Mais ce n'est pas grave parce que le temps et la vie fait évoluer les choses. Je pense qu'on a besoin d'un peu de sagesse, il n'y a pas de problème pour ça. Mais moi, ça m'a donné le temps de réfléchir à tout ça, aux enjeux aussi agricoles, parce qu'il faut savoir que quand je travaille le pois chiche, c'est parce que c'est de la rotation sur les sols et ça permet justement d'assoler différemment. Et moi, je travaille avec les lycées agricoles que je forme à cette grande vision avec moi de régénérer les sols. Et donc, c'est pour ça que je travaille souvent des plantes régénératives.
Alors, vous travaillez aussi en région, la châtaigne d'Ardèche, le riz de Camargue, j'imagine.
Oui. Voilà, là, le sorgho en ce moment. Et je fais évoluer, en fait, aussi ce que je peux écraser dans ce moulin et puis comment on va le faire. Et en plus, d'ailleurs, finalement, on le réajuste toujours parce que c'est un vrai truc expérimental, quoi.
Oui, parce que j'imagine qu'on ne moue pas de la même manière du sarrasin et une lentille.
Puis, il y a l'humidité qui rentre en jeu. Et puis, il y a beaucoup de choses. Mais pour le coup, on a vraiment des experts pour ça. Et ça me permet aussi de faire évoluer les choses. Et en même temps, aujourd'hui, ma grande réflexion, c'est l'essaimage, c'est-à-dire comment déployer cette pensée qui, pour moi, est une pensée universelle très inclusive que je peux partager avec d'autres personnes. Et ce que je fais sur le lycée agricole qui est à côté de chez moi, de Lille-sur-la-Sorgue et Avignon, avec lesquels on a lancé cette filière agricole, où des familles nous ont rejoints aussi. Là, on a fait 12 tonnes de pois chiches, puis on en rajoute chaque année. Mon but, c'est de le faire dans toute la France avec les autres lycées agricoles. Voilà.
Donc de pouvoir en fait permettre à des gens de se réinstaller, de s'approprier un produit et de travailler dans le bon sens paysan, si on peut reprendre cette
Exactement.
Expression qui finalement va finir par réellement résonner.
Oui.
Alors il y a quelque chose qui est très marquant chez vous aussi, on l'a touché du doigt, c'est le partage. Hein. Non mais c'est le partage, c'est l'envie de transmettre, on sent que c'est dans vos gènes ça, que c'est un besoin viscéral de ne rien garder pour vous. De faire pour transmettre.
Je pense que rien ne nous appartient en vrai. Et je le dis toujours, on peut ne pas le comprendre, mais moi, je dis toujours qu'on ne fait qu'occuper nos journées. Donc, tout ce que je fais ne m'appartient pas. Et mon grand enjeu à moi, c'est de savoir comment je vais le retransmettre à d'autres. D'abord parce que la vie est comme ça et que moi, elle me l'a montré à plusieurs reprises. Donc, en fait, là, aujourd'hui, tout le temps, tout ce que je fais au quotidien, je me dis, bah, tiens, comment je peux le transmettre? Comment je peux essayer d'aider quelqu'un? Comment ce que je fais sert à d'autres? Donc oui, effectivement, c'est la transmission qui est très importante. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde, justement, dans la transition, même plus évolué que la transition déjà, parce qu'il y a déjà des modèles qui font un peu modèle, justement, et qu'on a comme devoir, comme ça, de réfléchir un peu à comment œuvrer mieux. Donc moi, j'essaye de, avec beaucoup d'humilité, donner ce que j'ai.
Vous sentez qu'il y a un intérêt aujourd'hui qui a grandi depuis que vous êtes installé, de personnes qui viennent à votre rencontre, qui ont l'envie de venir faire de la farine, du pain, de la cuisine avec vous?
Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, ça a permis d'ouvrir non seulement aux personnes d'ailleurs intolérantes au gluten, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Je pense que c'est une grande ouverture sur le végétal et moi, c'est ce qui me touche beaucoup. L'assiette de 2040, c'est un grand sujet pour moi au quotidien. Autant dans la désirabilité de l'assiette que dans la réflexion agricole et agronomique. Mais oui, de nombreuses personnes viennent. Et d'ailleurs, j'en ai fait un centre de formation parce que mon but, c'est effectivement cette transmission. Dans tous les domaines, j'accompagne par exemple l'école Les Maïs qui va ouvrir à Marseille, qui est une école d'insertion par les métiers de l'alimentation. Mais j'accompagne aussi l'Institut Paul Bocuse, enfin LIFE. Et différents moyens et différents modèles, parce que tout le monde peut s'ouvrir à ça pour imaginer un futur souhaitable ensemble. Ouais.
C'est une idée qui passe facilement aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, mais on se dit, est-ce que ça touche vraiment? Parce qu'on reste encore parfois dans des antinomies tellement extrêmes.
Ah, mais bien sûr, en fait, il faut y croire. Et le pouvoir de conviction est bien plus grand que les autres et bien plus grand que nous-mêmes. Donc, je pense que la preuve par l'action, moi, je veux dire, effectivement, je tiens cet établissement gastronomique dans le Luberon, qui est étoilé et voilà, qui repousse toujours ses limites dans l'inspiration. J'ai créé effectivement cette entreprise où je fais du pain que je distribue au travers d'un projet que j'ai lancé avec Transgourmet volontairement pour les amener eux-mêmes à s'engager, etc., etc. Donc, je pense qu'en fait, notre grand, grand devoir, c'est aussi de convaincre et puis d'accompagner tout simplement. Donc oui, je suis sûre qu'on en est là, ouais.
Alors, vous parlez d'alimentation régénérative. Qu'est-ce que vous entendez par alimentation régénérative?
Alors, déjà tout à l'heure, vous avez parlé de bon pour la santé. Moi, je parle plutôt de bon pour la vie, parce que malheureusement, souvent, quand on parle de santé, c'est qu'on pense qu'il y a une maladie avant et on est plutôt dans ce côté médical. Moi, je parle de la vie et du régénératif par le vivant. Donc, régénérer le sol, régénérer le corps, régénérer l'esprit aussi, mais en tout cas, de manière plus pragmatique, le travail sur le sol actuel, justement, le non-travail ou l'amendement et la nourriture de ce sol est bénéfique pour la nourriture et la digestibilité des aliments et pour médicalement ou en tout cas dans la santé, ce qu'on peut dire, on va parler d'épigénétique, donc orienter notre corps pour vivre le plus longtemps dans sa bonne forme.
Les agriculteurs que vous rencontrez aujourd'hui, est-ce qu'ils sont sensibles à modifier le regard qu'ils portent sur leurs pratiques agricoles? Parce que souvent, ce sont des générations à qui on a inculqué des préceptes d'autrefois et qui ont tendance à les reproduire, ce qui semble parfois logique, mais ils vous entendent quand vous leur dites mais peut-être qu'on pourrait faire différemment, laissons les sols se reposer, pourquoi est-ce qu'on met de l'engrais? Enfin...
Alors, moi, j'ai choisi un angle, c'était grâce au lycée agricole de m'adresser aux jeunes et aux élèves par l'inspiration, par les personnes inspirantes, parce que je trouve que l'inspiration amène tellement de positif que du coup ça révèle des choses et ça amène les gens à penser différemment. Donc ça a été ma méthode de passer par là. Mais évidemment, je rencontre des gens qui sont réticents ou qui ne savent pas encore, mais c'est pas parce qu'ils sont réticents et enfermés, c'est juste que le modèle, ils le connaissent pas. Donc il suffit de partager et de montrer encore une fois par l'action que c'est possible. L'histoire du pois chiche, il y avait plein de gens qui se disaient mais qu'est-ce qu'elle veut avec son pois chiche, c'est pas ici qu'on le cultive, en Méditerranée c'est en Turquie et ailleurs. Ben non, en fait, on a replanté, ressemé, pardon, une variété ancienne qui était sur le plateau d'Aix-en-Provence. Voilà, il y a eu plein de réflexions, en fait. Et je pense que, moi, je parle beaucoup de coopération au-delà de la transmission. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui pour reconsidérer les modèles alimentaires.
Alors, votre entreprise est une société à mission. Alors, qu'est-ce que ça signifie, concrètement, société à mission?
Bah, en fait, dès le départ de la création de mes entreprises, ma volonté, c'était d'impacter ou en tout cas de le faire de manière très dédié au bien commun. Donc tout ce qu'on fait en fait a une mission d'intérêt général aussi, d'impact, de travail, de régénération encore une fois autant des terres que de l'humain. Donc on a des marqueurs en fait dans notre boîte qu'on doit respecter, qu'on doit amener, et ça considère le modèle économique, ça considère l'humain. Ça considère aussi la manière à laquelle on va travailler avec les agriculteurs ou les fournisseurs, si on peut dire ça, sur certains sujets. Et en fait, c'est une philosophie par laquelle on va pouvoir mesurer l'impact de nos engagements.
Alors vous avez prononcé le mot vie. Vie, c'est aussi une association, c'est ça, ça
passe. C'est une fondation même, fondation, que j'ai créée, qui est reliée à toutes mes entreprises aussi, avec laquelle on fait des actions sociétale, environnementale et humaine, comme accompagner des personnes dans les hôpitaux avec une école de cuisine dans les hôpitaux. On va accompagner des projets agricoles sur les semences d'aujourd'hui et de demain. Enfin, on fait de l'expérimentation juste pour faire évoluer le système, pour le transmettre et sensibiliser aussi, et puis l'adosser à tous nos grands engagements. Voilà.
Ils vous voient arriver d'un bon oeil, les lycées agricoles, quand vous venez exprimer une démarche un peu nouvelle et surtout leur dire, bon, ne pourrait-on pas réfléchir différemment ?
Non, je pense que oui, complètement. Et je pense qu'ils ont besoin et qu'ils ont envie qu'on coopère aussi. Il n'y a aucune fermeture. Enfin, ça dépend comment on s'adresse aux gens, je pense, dans la vie. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est plutôt comment on va le faire tous ensemble. Qu'est-ce qui a marché dans le projet actuel ? Par exemple, je vous donne un exemple. Là, on a fait 9 tonnes sur un lycée de pois chiches. Et en fait, au moment de ramasser, de moissonner, parce que c'est comme ça que ça se ramasse, il y a eu de la terre qui est rentrée dans la moissonneuse. Donc là, actuellement, j'ai 9 tonnes de pois chiches qui sont coincées dans des big bags et des bacs avec de la terre partout. Donc on a décidé d'acheter une nouvelle trieuse et d'accompagner pour essayer d'évacuer ça, etc. Et rien n'est facile, en fait. Mais bon, à un moment donné, cette coopération, elle exige de nous de repousser nos limites et d'essayer de voir ensemble comment on peut faire. Sinon, ça n'existera jamais.
Où est-ce que vous trouvez cette énergie ?
Dans la vie, justement, peut-être. je suis née comme ça. Je ne peux pas dire autrement.
Est-ce que c'est assez dingue de voir comment est-ce que vous êtes investi avec cette volonté profonde de je dirais, c'est même pas de pousser les murs, c'est de soulever les montagnes, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour soulever des montagnes, et moi, on me l'a donné, alors je ne veux pas le garder, quoi, justement, encore une fois.
Dernière question, quels sont vos projets pour cette année 2024 qui démarre ?
J'imagine qu'ils sont nombreux. Ouais, il y en a nombreux, mais c'est toujours les mêmes. Et disons qu'aujourd'hui, j'ai accompagné tout le projet de personnes extraordinaires qui travaillent avec moi. Donc la structuration était très, très importante. Mais encore une fois, c'était donner à ceux qui le veulent la chance de porter ce type de projet à mes côtés. Non pas parce que je leur donne la chance, mais qui me donnent aussi la chance de venir avec moi porter encore plus fort. Donc aujourd'hui, on en est dans cette phase. On développe justement notre modèle agricole avec les lycées. Ça, c'est un grand projet de cette année. Et je suis en train de mettre en place la construction d'un restaurant en autonomie totale dans mon parc, dans la campagne, où je vais travailler avec mes fours solaires et beaucoup d'autres choses, puisque c'est un grand sujet que j'ai lancé cette année dans mon travail culinaire. Donc c'est beaucoup. Et c'est aussi énormément de transmission. Avec des jeunes collaborateurs, des jeunes stagiaires, les écoles culinaires avec lesquelles je travaille. Donc, je vais perfectionner ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà.
Merci beaucoup, Nadia Samut. Avant de vous libérer, je vais proposer aux gens qui ont assisté à notre échange de vous poser une ou plusieurs questions, s'ils le souhaitent. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nadia Samut ? N'hésitez pas.
Juste, je vais dire un petit truc. Si Allez. Vous voulez voir certains produits que je fais et pouvoir aussi les déguster ou en tout cas les rencontrer. Il y a un stand qui est plus loin, qui est Transgourmet. Et en fait, j'ai fait un travail avec eux qui était comment amener ce pain sur les tables en réfléchissant à l'empreinte carbone, etc. Donc, on travaille avec leurs camions à vide pour pouvoir distribuer. Et moi, j'appelle ça le transport en commun de l'alimentation. Ça me permet d'avoir sur les tables de France vraiment ce produit-là, alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Et c'est au-delà d'un pain, c'est un pain sécurisé parce que j'ai créé l'emballage qui permet de le sécuriser et d'aller au four aussi et d'éviter les contaminations croisées pour les personnes vraiment malades comme moi, parce que c'est toujours un défi et un problème. Donc voilà, vous pouvez venir, je vais me retrouver là-bas juste après et je suis ravie de le partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup Nadia Samut. On applaudit Nadia Samut pour être venue partager avec nous toute cette expérience. Merci beaucoup et bonne fin de journée. On fait un break avec une autre table ronde avec Honoré Lemac dans un instant. Puis nous, on se retrouvera ici même à 15h20 pour parler de la formation. Voilà, on se posera la question de repenser la formation aujourd'hui. Donc encore un sujet d'intérêt tout à l'heure à 15h20.